RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI, une édition diffusée uniquement sur RFI, donc sans TV5, en raison des congés de fin d'année. Avec moi en studio, Alassane Samba Diop, journaliste et directeur de la radio privée sénégalaise RFM, Louis Comayou, journaliste et président du Club de l'information africaine, et puis enfin Albert Bourgis, juriste et spécialiste de géopolitique africaine. C'est au tour de deux sujets cette semaine, la visite d'État en France du président sénégalais Macky Sall à l'invitation de son homologue François Hollande, visite du 19 au 22 décembre. Et puis le Congo-Kinshasa, la RDC, la tension politique a baissé depuis ce 19 décembre, date fatidique et fin du second mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. L'opposition et le pouvoir sont parvenus à un consensus à la suite d'une médiation des évêques du Congo. Et là, on commence Alassane Samba Diop, donc par cette visite d'État du président sénégalais Macky Sall en France. Autrement dit, une visite placée par François Hollande au niveau diplomatique le plus élevé pour honorer son homologue sénégalais. Alors, que retenez-vous, Alassane, de cette visite où il a été question de train, de pétrole et bien d'autres choses?
Oui, le président Macky Sall juge sa visite très positive parce qu'il a pu rencontrer toutes les autorités françaises. Il a pu aussi parler d'économie, d'écologie, ensuite parler du train et du pétrole. Vous le savez, le Sénégal aujourd'hui a découvert le pétrole et le gaz. Et beaucoup de Sénégalais estiment aujourd'hui que le regain de relations entre la France et le Sénégal est lié quelque part au pétrole sénégalais. Total a signé un contrat avec le Sénégal d'exploitation et d'exploration. Beaucoup de Sénégalais estiment que le Sénégal devient de plus en plus attractif avec ses ressources minières. Maintenant, la question qui se pose fondamentalement au niveau du Sénégal, c'est que les gens demandent, est-ce que l'État du Sénégal a négocié au mieux pour les intérêts des Sénégalais? C'est ça la question fondamentale qui se pose. Souvent, les difficultés que nous avons dans nos pays, c'est que on n'a pas une capacité de négociation extraordinaire qui permette de préserver les intérêts des populations. Souvent, nous, dans nos pays...
Vous voulez dire que nous n'avons pas assez d'expertise?
C'est ça le problème qui se pose souvent, parce que les grands majors comme Total, comme BP, c'est des gens qui ont des avocats d'affaires qui sont très fort en négociation. Notre capacité de négociation souvent est moindre. C'est pourquoi beaucoup de jeunes et beaucoup de gens au Sénégal, les universitaires, demandent que l'État du Sénégal soit entouré par des expertises pour permettre de négocier au mieux les intérêts du Sénégal dans ce genre de dossier.
Alors cela dit, Louis Comayou, et c'est assez piquant d'ailleurs, du côté de Total, le représentant est un Sénégalais, il s'appelle Momar Guerre, qui fait partie de cette grande direction de cette société française du pétrole, et c'est lui qui a signé ce contrat pétrolier d'exploration avec le ministre sénégalais de l'énergie. Mais dans la même semaine, tout de même, Dakar a annoncé également un contrat d'exploration avec BP qui porte sur 1 milliard de dollars.
Non, mais ce qu'il faut rajouter pour compléter ce que disait notre confrère de RFM, c'est que aujourd'hui, conscient de ce que les États ne sont pas toujours très bien armés face aux multinationales pour négocier, la Banque africaine de développement a créé ce qu'elle appelle la facilité juridique, qui est une espèce de structure accompagnant les États qui en expriment le souhait dans leurs négociations avec les organisations internationales, qu'il s'agisse de crédits, qu'il s'agisse de contrats commerciaux, voire même de négociations de la dette. Donc de ce point de vue-là, si l'État sénégalais avait besoin d'une expertise, elle peut en trouver auprès de la Banque africaine de développement. Concernant maintenant le fait qu'il y ait un Sénégalais à Total, je suis pas certain qu'il travaille forcément dans le sens des intérêts du Sénégal, puisqu'il est d'abord salarié de Total et que l'intérêt pour lui, c'est que Total sorte vainqueur dans la négociation.
Bien entendu. Alors Albert Bourgis, vous êtes juriste également, même si vous êtes spécialisé en droit public. Cependant, vous avez un point de vue sur les contrats commerciaux et on observe effectivement, et ce n'est pas rare et c'est courant, malheureusement, que souvent les pays africains ou d'autres pays en développement disposent de matières premières. Ces matières premières sont exploitées, mais finalement, les pays en question sont rétribués à des taux absolument scandaleux, bien souvent.
Oui, oui, vous avez raison, Hassan, mais ce qu'il faudrait quand même ajouter, c'est qu'il n'y a jamais de philanthropie ni de sentiment dans les relations d'État à État, surtout lorsqu'il y a des intérêts économiques qui existent, y compris entre une ancienne colonie, le Sénégal, et l'ancienne puissance coloniale. Je voudrais simplement ajouter à propos de notre ami Kemayus qui vient de dire, c'est vrai que la BAD existe, mais cela dit, le fonctionnement de la BAD n'est pas toujours très souple. Il y a tout un tas de procédures qui répugnent un petit peu aux contractants des pays du Nord. Alors, ce qui fait que il appartient surtout à nos pays africains de s'adresser préalablement justement à la BAD et de demander à la BAD de l'accompagner. Vous voyez, je veux dire, dans ces négociations et même dans l'aboutissement de ces négociations par les accords comme celui qui vient d'être signé entre le Sénégal et Total et également
et d'autres groupes pétroliers.
Et d'autres groupes pétroliers. Moi, je voudrais simplement ajouter, c'est que au fond, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il fallait signer cet accord, est-ce qu'il fallait précisément le faire coïncider
avec la visite du président Macky Sall.
Moi, ça me paraît un petit peu quand même exagéré et sans doute un peu superfétatoire, comme on dit. Franchement, il y avait une façon d'honorer le Sénégal. Il a été honoré incontestablement à travers Macky Sall, c'est le Sénégal, n'oublions jamais la relation spéciale très particulière entre le Sénégal et la France. Donc ça, c'était une chose. Une autre était de signer ces fameux accords. On aurait pu attendre, les faire signer par la suite.
Et c'est ce qui existe, ou ailleurs, oui.
Même c'est ce qui d'ailleurs d'une manière générale caractérise les relations entre les puissances qui sont signataires d'accords de toutes sortes, pas simplement économiques mais aussi politiques. C'est qu'on laisse un laps de temps au-delà duquel, bien sûr, on peut se permettre justement de parler d'accords, de contrats commerciaux, de contrats de toutes sortes, y compris ce contrat pétrolier. C'est ça qui me gêne, personnellement, en tout cas en tant qu'observateur.
Voilà, hein, c'est que... donc le timing de la signature donc entre Total et le Sénégal. Cela dit, Macky Sall est un ingénieur du pétrole, donc je suppose qu'il a dû négocier au mieux les intérêts du Sénégal, Alassane Samba Diop. Par ailleurs, il convient tout de même de souligner que le Sénégal n'est pas le partenaire aujourd'hui exclusif de la France. Le Sénégal s'est ouvert à la Chine, le Sénégal s'est ouvert, y compris dans ses infrastructures, c'est-à-dire qui quand même coûte très cher, demande beaucoup d'investissements avec des partenariats avec la Turquie et d'autres pays. Donc la France n'est plus seul maître, si je puis dire, en tout cas en matière de partenariat économique avec le Sénégal sous Macky Sall.
Absolument. C'est depuis Abdoulaye Wade d'ailleurs que le Sénégal a commencé à s'ouvrir à d'autres pays. Je pense à Abdoulaye Wade, quand il était au pouvoir, il a essayé de s'ouvrir aux pays arabes, à la Chine, entre autres. Mais avec Macky Sall, il y a une visite d'État.
Avec l'Iran même, d'ailleurs,
avec l'Iran aussi. Il y a une visite d'État que Macky Sall a effectuée en Chine, où la Chine a participé à pratiquement annoncé plus de 5 400 milliards de francs CFA pour accompagner les infrastructures au Sénégal. Aujourd'hui, la plus grande autoroute qu'on entend construire au Sénégal, il est à Touba, de Dakar à Touba. Ce sont les Chinois qui le construisent. Il y a le musée des civilisations à Dakar. Ce sont les Chinois qui l'ont mis en place. Il y a beaucoup d'infrastructures. C'est les Chinois qui travaillent pour
le centre de conférence internationale d'Abdou Diouf. Ce sont les Turcs
qui l'ont mis en place. Les gens pensent qu'aujourd'hui, que le Sénégal est un pays démocratique, ouvert, qu'il doit au mieux aller chercher les meilleurs partenaires pour ouvrir son marché et travailler. Il y a une jeunesse qui est là, qui demande du travail. La France a les capacités, mais elle n'a plus les capacités qu'elle avait avant par rapport aujourd'hui à la crise économique qui sévit un peu en Europe. Donc le Sénégal a intérêt à s'ouvrir au marché, à s'ouvrir aux autres coopérations internationales.
Un mot rapidement, Louis, sur cette ouverture du Sénégal, comme d'ailleurs bon nombre de pays africains, aux autres partenaires, en dehors, je dirais, de ce partenariat traditionnel avec l'ancienne puissance coloniale.
Non, mais c'est très important, parce que quand on regarde aujourd'hui la croissance de l'économie sénégalaise, il y a quand même une diversification. Jusque-là, on avait l'impression que le Sénégal n'était pas une puissance qui pouvait exporter beaucoup de choses. Non seulement elle exporte, mais elle construit. Dakar est un chantier permanent. Quand vous arrivez au Sénégal aujourd'hui, au bout d'un an, vous revenez, vous remarquez qu'il y a de nouvelles constructions, il y a de nouveaux chantiers qui ont été lancés. Non, ça c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que le dernier aspect, après cela, après avoir diversifié au niveau international, c'est peut-être de renforcer la coopération régionale également, qui Absolument. Ne doit pas être négligée dans cette perspective. perspective.
Alors, revenons, Albert Bourget, à un aspect que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette relation particulière entre la France et le Sénégal, quel que soit le dirigeant depuis Léopold Sédar Senghor, en passant par évidemment le président Abdou Diouf et même Abdoulaye Wade, et aujourd'hui Macky Sall, ces relations restent étroites, mais c'est au-delà, je dirais, des dirigeants. C'est-à-dire que, au fond, par exemple, Macky Sall, qui est un libéral, comme on dit, a effectué sa première visite lorsqu'il a été élu ici en France. Nicolas Sarkozy était au pouvoir et il effectue ce mois de décembre une visite d'État à un chef d'État français socialiste qui d'ailleurs ne va pas briguer un second mandat. Ce qui veut dire que ce sont véritablement des relations très enracinées.
Ce sont des relations effectivement très enracinées et le Sénégal est attractif. Il est attractif aujourd'hui sur le plan économique, on le voit très bien, il y a des richesses, il y a des potentialités, à l'évidence, mais attractif à travers, sa stabilité, institutionnelle. C'est un des rares pays d'Afrique subsaharienne, en tout cas, à avoir cette stabilité institutionnelle. Attractif aussi par le personnel politique. Il y a une relation très étroite entre, bien sûr, le personnel politique français, le personnel politique sénégalais, qui peut s'expliquer de diverses manières, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Il y a également cette même proximité entre le personnel politique français et d'autres États africains subsahariens, sans doute. Mais avec le Sénégal, c'est spécial. Du reste, la première visite du président Hollande en Afrique l'a été pour le Sénégal. Donc c'était encore une fois un signe. Et c'était pas simplement gratuit. Il y a eu un discours intéressant à l'Assemblée nationale qui venait un petit peu quand même faire oublier, pardonnez-moi, le fameux discours de Sarkozy sur le fait que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Absurde et ignoble, pardonnez-moi l'expression, et peut-être forte. Mais je veux dire par là que c'est vrai qu'il y a une relation très particulière. Dakar, le Sénégal, ça a été le point d'ancrage quand même sur le plan administratif, sur le plan politique, de l'administration coloniale, Dakar, capitale de l'AOF. Et puis bon, des personnalités prestigieuses, Lamine Gueye, Senghor, il y en a pas ailleurs, il y a Oufouet Boigny.
La quasi-totalité des personnels politiques sénégalais a été formée en France.
Formée en France, pardonnez-moi Hassan, c'est surtout personnel politique aussi sénégalais qui s'est frotté. Le personnel politique français.
C'est oublié. Et c'est très important. Un dernier mot à Alassane Samba Diop à propos de la diplomatie de Macky Sall. Il a quand même été le seul chef d'État francophone d'Afrique à recevoir la visite de Barack Obama.
Oui, absolument. Je pense que tout ça entre dans le cadre de la stabilité du Sénégal, d'un pays en Afrique de l'Ouest qui, sur le plan politique, est très stable. C'est un pays qui n'a pas connu de coup d'État. C'est un pays aussi qui est un pays important pour les Américains. N'oubliez pas que le Sénégal est au bord de l'Atlantique. On parle souvent des pirates qui passent sur cette voie.
Il y a de nouveaux accords militaires.
Le Sénégal n'est pas loin du Mali où ça bouge beaucoup là-bas. Les Américains viennent au Sénégal pour assurer d'abord la sécurité intérieure et ensuite chercher quelque part des parts de marché.
RFI Afrique Presse, on en vient au deuxième sujet de cette édition. La RDC face à cette crise provoquée par la prolongation du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, qui a donc pris fin le 19 décembre au soir. Mandat prolongé en principe jusqu'à la tenue des prochaines élections 2018. Je le disais en titre, Louis Kemayou, Étienne Tshisekedi, le leader du rassemblement, n'avait pas lancé de mot d'ordre à ses partisans pour contester dans la rue le maintien au pouvoir de Kabila, mais les violences ont fait plusieurs dizaines de morts. Je le disais donc en titre, il y a eu consensus la nuit dernière, c'est-à-dire jeudi, à la veille de cette émission enregistrée ce vendredi 23 décembre, entre le pouvoir et ce qu'on appelle l'opposition, les forces du rassemblement, sous l'égide d'Étienne Tshisekedi, impliquant Moïse Katumbi et d'autres. Eh bien, ce consensus, c'est que Kabila reste au pouvoir, mais il doit s'engager à ne pas modifier la constitution pour éventuellement se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Et ce consensus a été arraché grâce aux évêques du Congo, à la conférence épiscopale des évêques du Congo, la CENCO.
Tout à fait. Et c'est plutôt bon signe. Espérons que cela tiendra longtemps, puisqu'il est question, et c'était l'un des points d'achoppement, que la seule chose qui, jusqu'à présent, intéressait l'opposition, c'était de savoir si Kabila pouvait rester ou pas. Là, pour le moment, on en est à une position qui est celle de le laisser aller jusqu'au bout, à condition qu'il organise des élections et qu'il ne s'y présente pas. C'est déjà une bonne porte de sortie. Espérons que les grands conseillers de Kabila Kabila, en l'occurrence les grands voisins, qu'il s'agisse du Rwanda, de l'Ouganda ou du Congo Brazzaville, l'Angola. J'espère que ces partenaires-là aideront à faciliter cette transition et trouveront surtout le financement pour faire tenir ces élections, parce que l'un des gros handicaps qu'on a, c'est que il y avait la barrière du financement qui n'avait pas été levée, et donc si cela est levé et que Kabila ne se présente pas, on est sur la bonne voie pour sortir de la crise.
Alors est-ce que Alassane Samba Diop, la seule barrière, le seul gap qui a, comme on dit, qui a empêché la tenue de ces élections en temps et en heure, c'était vraiment une question d'argent, ou derrière il y a de véritables problèmes de fond, c'est-à-dire des problèmes politiques, c'est-à-dire des problèmes d'alternance au pouvoir?
Je pense que c'est plutôt un problème d'alternance au pouvoir qui se pose au Congo Kinshasa. Le problème qui se pose, c'est que Kabila, son mandat est fini. Il devait tout faire pour organiser les élections et passer la main. Il l'a pas fait, il est resté. Aujourd'hui, les évêques ont négocié pour qu'il reste en 2018. Est-ce qu'il va respecter cet engagement ou pas? C'est une question qu'il faut se poser. Au niveau de ce qui est déplorable, surtout, ce sont ces morts, ces jeunes que l'on tue, qui sont sacrifiés sous l'autel des négociations politiques. Je pense que c'est important.
Alors ces jeunes qui meurent souvent d'ailleurs sous les balles, parce qu'il y a les émeutes, parce qu'il y a des pillages, au fond, ils ne sont pas dans la rue forcément pour des raisons de conviction politique, souvent. Malheureusement, ils sont là justement parce que ce sont les laissés pour compte d'une société qui, au fond, ne se développe pas et où les politiques ne parviennent pas à stabiliser, à développer le pays, quel que soit le bord,
d'ailleurs. C'est ça qui est dramatique au Congo Kinshasa, ce pays qui a énormément de richesses, où sa jeunesse n'arrive pas à s'en sortir. Elle survit dans la rue. Les politiques sont en train de les instrumentaliser. Ces jeunes-là veulent aujourd'hui vivre mieux. Je pense que l'Afrique, c'est pas seulement la misère, c'est pas seulement la guerre. Il y a une Afrique qui bouge, qui s'en sort, qui fait beaucoup de choses. C'est ça qui est dramatique dans ce genre de situation, où ces jeunes sont tués, après on négocie, on oublie, il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. C'est ça le gros problème que nous avons sur le continent par rapport à la gestion de la chose politique.
Albert Bourgier, alors tant de gâchis, tant de morts pour en arriver donc finalement à un consensus qui permette à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Est-ce que de part et d'autre, finalement, la responsabilité, les deux parties, c'est-à-dire l'opposition comme le pouvoir, ne sont pas responsables de ce gâchis finalement?
Bien sûr, on peut très bien dire que les deux parties sont responsables de la situation, en tout cas de ce qui vient d'arriver, et surtout la violence qui a été utilisée quand même par Kabila, par le pouvoir. Ne pas oublier, ce ne sont pas les autres qui ont poussé.
Les forces de l'ordre.
Certes, les forces de l'ordre, donc, c'est-à-dire au service du pouvoir en place. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que le Congo Kinshasa et la RDC aujourd'hui, comme d'autres pays d'Afrique centrale, on a l'impression que c'est toute la région qui est frappée de malédiction, qui est fâchée en quelque sorte avec le rituel démocratique. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je veux dire que moi, je pense sincèrement que ces deux ans de répit qui ont été donnés, bien sûr, à Kabila, j'attends de voir, je ne sais pas si on sera là dans deux ans, mais je ne suis pas sûr que ça soit véritablement respecté. Je ne suis pas sûr que d'ici 2018, les choses se passent normalement et dans un calme que chacun, bien sûr, espère pour justement empêcher qu'il y ait l'usage de la violence brutale quand même par les forces de l'ordre, et que, ma foi, les Kinois, en quelque sorte, les Congolais, puissent véritablement vivre dans un pays où les droits de l'individu sont respectés, où la répression n'est pas la seule arme, il y a des discussions, il y a des concertations. Heureusement que les évêques sont là au Congo, au Kinshasa, heureusement qu'en RDC, il y a vraiment ce clergé qui est extrêmement intéressant et qui a toujours été d'ailleurs impliqué dans la vie politique congolaise, hein, n'oublions jamais, de tout temps.
Y compris les kibanguistes, d'ailleurs.
Et bien sûr, les kibanguistes. Donc, moi, je pense sincèrement que Kabila se donne du temps, sans aucun doute, et espère pouvoir peut-être trouver une espèce de compromis avec ses adversaires.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Presse, donc diffusée uniquement sur RFI et sans TV5 Monde, en raison donc des fêtes de fin d'année. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de RFI. Merci à Alassane Samba Diop, Louis Kemayou et Albert Bourgis. Rendez-vous, messieurs, à la semaine prochaine pour un tour d'horizon de quelques grands sujets de l'actualité africaine en 2016. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité à Afrique Presse, et bonne fête à nos auditeurs qui célèbrent Noël. Julien Lingue a réalisé cette émission.